Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, le journal Olivier Bois.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, une question pour commencer. Un lycée privé de l'Essonne va-t-il trop loin en matière de punition?
En tout cas, les élèves surpris en train de tricher sont enfermés pendant 8 heures dans une pièce sans fenêtre. On sera sur place dans un instant. La tempête Gloria prend de la force. Des centaines d'évacuations sont en cours le long de ce petit fleuve côtier de l'Agly. Les pluies doivent durer toute la nuit. Dans ce journal également, le procès en destitution de Donald Trump qui commence vraiment aujourd'hui. La très grande inquiétude au Québec où 5 Français sont portés disparus après un accident de motoneige et du rugby. L'équipe de France est remontée le moral aujourd'hui. Entraînement en public à Nice avec des supporters très heureux de les voir.
Juste après ce journal, fallait l'inviter ou plutôt fallait les inviter ce soir, Beate et Serge Klarsfeld.
RTL Soir.
On attaque donc avec cette polémique dans un lycée de l'Essonne qui ne plaisante pas avec les élèves qui trichent.
Ah oui, c'est un euphémisme. Tout élève pris la main dans le sac en train de tricher se retrouve donc enfermé dans une petite pièce de 6 mètres carrés sans fenêtre. Bonsoir Julien Fautrat.
Bonsoir.
Vous êtes sur place devant ce collège-lycée Saint-Louis-Saint-Clément à Viry-Châtillon. La sanction est en place depuis quelques semaines. Ça provoque un certain émoi, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, j'ai d'ailleurs pu me procurer une note à l'adresse des parents comme un rappel au règlement datant du mois de décembre. Tout élève pris en train de tricher ira au parloir. Le mot est écrit noir sur blanc et crée une certaine aigreur chez les élèves qui se sont fait attraper en train de tricher.
Moi, je trouve que c'est clairement des pratiques archaïques et moyenâgeuses. On est privé de récréation, on est nourri dans la salle. Je suis désolé, mais c'est de l'humiliation. Tous tes camarades, ils sont dehors en train de jouer et toi, t'es à l'intérieur. Même en prison, on a une promenade.
Mais il y a débat à la sortie des classes. Sébastien, lui aussi, a triché, a été sanctionné, mais il a plutôt bien vécu son parloir.
Ben, j'ai été le premier. Je trouvais qu'une journée, c'était long. Après, oui, moi, j'ai réfléchi pendant, en tout cas, cette journée. Je me suis dit que là, j'avais pas envie de refaire une journée de parloir, quoi. Parloir, c'est fini, quoi. C'est plus pour moi.
Un nouveau directeur depuis la rentrée, intransigeant, mais soutenu par cette professeure d'histoire.
On a énormément de tricheries, de plus en plus. Pour moi, oui, la sanction est adaptée. Là, ça permet à l'élève quand même de réfléchir. Mais il faut savoir que ça devient un réel problème, ces tricheries.
Le chef d'établissement n'est pas présent aujourd'hui pour s'expliquer, mais selon un parent, il est tenu par la réputation d'excellence de Saint-Louis-Saint-Clément.
Merci beaucoup Julien Fautrat, en direct à Viry-Châtillon pour RTL. L'écrivaine Ariane Fornia, qui avait accusé sur son blog l'ancien ministre Pierre Joxe d'agression sexuelle lors d'une soirée à l'Opéra en 2010, a été condamnée aujourd'hui pour diffamation. Le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas étayé ses accusations. La République En Marche lance un ultimatum à Cédric Villani à un mois et demi des municipales à Paris. Stanislas Guérini, le délégué général du mouvement, lui demande de choisir entre la capitale et le parti sous peine d'exclusion. Est-ce que vous pensez que je vais renoncer? Voilà ce qu'il a dit à votre micro tout à l'heure, Thomas Soto.
On va à présent, enfin c'est Cédric Villani, moi j'ai rien dit, il a dit. On va dans les Pyrénées-Orientales à présent, Olivier, et ce soir là-bas, des habitants quittent leur maison à cause des crues.
Oui, les conséquences de la tempête Gloria sont là, l'Aude est en crue, mais c'est surtout autour du petit fleuve côtier l'Agly qu'on s'inquiète. On est passé là-bas en alerte rouge. Les autorités ne veulent prendre aucun risque. Les habitants qui vivent dans les villes, dans les villages, le long de ce fleuve, sur une bande de 300 mètres doivent quitter leur maison. Et c'est le cas à Toreil, où vous vous trouvez, Patrick Tégéro, avec une famille qui a fait ses bagages un peu précipitamment.
Au bout de la rue, il y a la digue qui contient l'Agly en crue. Marc et Anne-Sophie viennent de fermer leur maison.
On va aller chez les beaux-parents qui vont nous accueillir avec plaisir. Il faut voir le côté positif. Il n'y aura pas le repas à faire ce soir. De toute façon, on savait en s'installant là qu'on était dans une zone inondable plus et que ça, c'était un risque. Donc voilà, on est très heureux d'être ici, mais on sait aussi que la contrepartie, c'est ça.
Au début, on n'y croit pas. Puis maintenant, on entend des sirènes, des hélicoptères, ils passent plusieurs fois. Donc en effet, ça commence à stresser puis ça se transmet un petit peu là.
Ils ont laissé les poules, mais dans la voiture, il y a déjà le chien et les trois enfants. L'aînée, Juliette, a 14 ans.
Les policiers sont arrivés, ils ont dit qu'il fallait tout mettre en route. Tout ça nous a surpris parce que c'est arrivé super vite. Moi, j'ai peur, donc
ah oui
je suis un peu stressée. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc, ouais. Bon, après, ma chambre, elle est en haut, donc... Et ben là, ça y est, on part. On a tout mis dans le coffre et c'est parti.
Dans le ciel, l'hélicoptère de la gendarmerie voit la très basse altitude. À la recherche de la moindre fenêtre éclairée, tout le monde doit évacuer le secteur.
Reportage de Patrick Tégéro. L'alerte va courir jusqu'à demain midi. On attend en effet encore énormément de pluie cette nuit.
La réforme des retraites. Ouais, oui. Dans deux jours, le gouvernement proposera son texte en Conseil des ministres. En attendant, les opposants s'activent toujours.
Effectivement, les agents de la fonction publique s'étaient donné rendez-vous, en tout cas devant le ministère des Finances, pour déposer symboliquement leur outil de travail. Parmi les manifestants, il y avait les égoutiers de Paris concernés par la réforme. Jusqu'à maintenant, du fait de leur métier particulièrement pénible, ils partent à la retraite à 52 ans. Pas question pour Guillaume d'imaginer travailler 10 ans de plus.
Je vais pas tomber dans le misérabilisme, je vais pas tomber dans le germinal. Mais on travaille dans le noir quotidiennement, on barbote dans la merde, on côtoie les rats, les blattes, tous les insectes. On a trouvé du plomb, il y a de l'amiante sur toutes les canalisations, c'est ce qu'on respire tous les jours. Il faut savoir qu'un égoutier, la dernière étude de l'ITSERM montre qu'un égoutier a 17 ans de vie en moins. Donc l'espérance d'un égoutier, c'est 58 ans. Et demain, M. Macron, il nous dit, un égoutier, c'est simple, maintenant c'est 62 ans, vous partez à la retraite. Ah oui, donc on meurt en égout, c'est ça. Nous, on veut faire comprendre à ces gens, on veut pas crever en égout, on veut pouvoir aussi profiter de la vie à la fin de notre carrière, profiter de la retraite.
Guillaume Égoutier à Paris, il répondait tout à l'heure à Thomas Dulin pour RTL. Deux agents d'Enedis ont été placés en garde à vue quelques heures aujourd'hui en Dordogne. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une coupure d'électricité sauvage sur une entreprise Seveso. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, estime que ces interpellations jettent de l'huile sur le feu. Il appelle à une grande mobilisation vendredi, jour de Conseil des ministres, où le texte sera présenté.
D'un monde à l'autre, à Davos, au Forum économique mondial, la France arrondit les angles sur sa taxe GAFA.
Oui, on connaît les enjeux. La France veut taxer une partie du chiffre d'affaires des géants américains d'Internet, Amazon, Google ou Facebook. Donald Trump menaçait en représailles de surtaxer les produits français aux États-Unis. L'argument a pesé, visiblement. Bonsoir, Martial You.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, à Davos, l'envoyé spécial d'RTL. Il y a eu une réunion aujourd'hui entre Bruno Le Maire et son homologue américain. On a entendu ces dernières semaines un ministre de l'économie très offensive sur la taxe GAFA. On va dire qu'il a été un peu plus prudent, un peu plus poli aujourd'hui.
Oui, c'est même un numéro d'équilibriste auquel nous avons assisté cet après-midi. En réalité, Donald Trump avait posé les bases ici à Davos un peu plus tôt dans la journée, dans sa conférence de presse, en disant que si l'Europe maintenait ses menaces de taxes, il augmenterait les droits de douane sur les voitures allemandes, le vin français, le parmesan italien. Et Bruno Le Maire avec donc la délicate mission de dire que la France allait finalement geler sa taxe en attendant des discussions au niveau international, mais en niant la moindre reculade, ce qui n'était pas évident.
Nous taxerons les entreprises du numérique, quoi qu'il arrive. Bien entendu, c'est l'engagement que nous avons pris avec le président de la République et cet engagement sera tenu. Et de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucun recul.
Donc les 4 à 500 millions que devait rapporter la taxe GAFA en 2020 sont gelés pour l'instant. On va maintenant attendre que tous les pays de l'OCDE se mettent d'accord pour créer une taxe GAFA internationale d'ici la fin de l'année. Et si on ne trouve pas d'accord, alors on réactivera notre taxe française. Mais on sait déjà qu'un accord international sur la fiscalité est très compliqué à trouver. Tous les pays n'en veulent pas. Et puis une signature américaine sur un tel sujet, alors que Donald Trump est en campagne pour sa propre réélection, semble impossible cette année.
Merci beaucoup Martial You, l'envoyé spécial de RTL à Davos.
Martial qui parlait de Donald Trump de passage à Davos. Il y a aussi son procès en destitution qui commence vraiment pour de bon ce soir. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter vraiment le président américain. On en parle juste après la pub.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
À 19h09, la suite du journal avec vous, Olivier Bois. Et on y est, Olivier, le procès en destitution de Donald Trump commence pour de bon.
Oui, l'audience démarre tout juste au Sénat, à Washington, où on vous y retrouve, Philippe Corbet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le procureur va vraiment commencer à égrener les accusations qui sont très graves. On les connaît. Quelle va être la stratégie des avocats de Trump ?
Eh bien, devant les sénateurs jurés, ses avocats parlent à peine du fond de l'affaire. Ils ne tentent pas de démontrer que le président n'est pas coupable. Ils préfèrent attaquer le principe même de cette procédure de destitution et ce procès. Ils vont jusqu'à reprendre quelques mensonges et formules des tweets du président. En fait, ils savent que Donald Trump sera probablement acquitté compte tenu du rapport de force ici au Sénat. Donc, ils cherchent surtout à électriser ses soutiens devant leur télé. Les animateurs les plus trumpistes de Fox News applaudissent la pugnacité, l'agressivité de ses avocats. C'est le président qui souhaite que sa défense fasse du spectacle pour la télé. Et il aurait d'ailleurs une autre idée de mise en scène à l'entendre depuis Davos. Il aimerait être ici, dans la salle de son procès.
J'adorerais m'asseoir au premier rang et contempler leur visage corrompu. J'adorerais ça. Ne m'en parlez plus, vous allez me convaincre de le faire.
Il dit que ses avocats l'en empêchent. En fait, s'il venait ici, il devrait témoigner sous serment. Et donc, dès le premier mensonge, ce serait considéré comme de l'obstruction. Et ça, ce serait un nouveau motif de destitution.
Merci beaucoup, Philippe Corbet, correspondant de RTL aux États-Unis. Le bilan s'aggrave en Chine. 17 personnes sont mortes du coronavirus. D'autres pays sont touchés dans une moindre mesure. Pas de protocole spécial encore en France. On attend en fait dans la soirée la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Au Québec, 5 touristes français sont portés disparus. Ils étaient partis hier soir dans le nord du pays pour une balade en motoneige avec un guide canadien. Bonsoir Pierre-Julien.
Bonsoir.
Que s'est-il passé? Les survivants racontent que la glace au-dessus d'un lac a cédé pendant l'expédition.
Oui, hier il était 19h30 local quand les 8 Français accompagnés par leur guide quittant un sentier balisé le long de la berge se sont aventurés avec leur motoneige sur le lac Saint-Jean, le troisième plus grand du Québec. Les conditions météo étaient plutôt bonnes et progressant phare de leurs engins allumés dans la nuit, ils ont peut-être cru que la couche de glace pouvait facilement supporter leur poids. Mais voilà les précisions avec le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec.
Une certaine partie du lac est complètement gelée, sauf que à l'endroit où les gens ont passé, c'est qu'il y a des remous du courant et le lac ne gèle pratiquement pas jamais. Donc, visiblement, c'était un manque d'expérience ou encore un manque de connaissance du terrain. Le guide a laissé le sentier pour s'engager sur le lac hors piste. On met tout en œuvre pour retrouver les personnes, qu'elles soient vivantes ou décédées.
Le bilan donc provisoire, 5 disparus, 3 personnes saines et saufs. Quant au guide, un Québécois âgé de 42 ans qui avait été sorti des eaux glacées, il est décédé des suites du choc thermique.
Merci beaucoup Pierre-Julien du service international d'RTL. Selon France 3, justement sur cette disparition au Québec, les 5 touristes français sont originaires d'Alsace et des Vosges.
Un peu de sport à présent, du rugby en l'occurrence. Le nouveau sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, donnera demain la liste des 28 joueurs qu'il retient pour le tournoi des 6 nations et pour le premier match.
Oui, en attendant, les Bleus sont en stage de préparation à Nice. Entraînement en public, dans la bonne ambiance, vous allez l'entendre. Les supporters étaient contents de les croiser, Mickaël Lefebvre.
Oui, avec déjà une belle surprise pour cet entraînement en public, car même si Nice n'est pas une terre de rugby, près de 400 personnes venues de toute la région ont assisté à cette séance. Parmi la foule, les gamins de l'école de rugby de Menton qui ont mis de l'ambiance et clamé leur amour pour les Bleus.
Ils sont assez exceptionnels et je pense que bientôt ils gagneront. Gagneront bientôt une coupe.
Je vais être le futur Ntamak ou le futur Dupont.
Polo bleu, blanc, rouge sur les épaules, Martial, le Toulonnais, est présent pour afficher sa confiance dans cette équipe de France rajeunie.
La plupart, ils ont zéro sélection, donc il faut être derrière eux, quoi. Il faut les pousser.
Pour Jean-Luc, la déception de la dernière Coupe du Monde appartient déjà au passé.
Allez, c'est oublié. On n'est pas rancunier, on aime nos joueurs.
Supporter du Stade niçois, Jean-Pierre est lui plein d'espoir.
C'est la vitrine du rugby français, tout le monde en a pris conscience. Et là, maintenant, je crois qu'on récolte les fruits de la formation. Définitivement, je crois qu'on va renouer avec la France qui gagne, quoi.
Grâce au crédit du renouveau, Fabien Galthié et ses hommes ont donc maintenant toutes les cartes en main pour ne plus décevoir leurs supporters.
Donc ils en profitent de l'entraînement. Les choses sérieuses commencent le 2 février. Le match, le premier match face à l'Angleterre pour le début du tournoi destination.
Face à l'Angleterre.
Face à l'Angleterre.
Quand même,
oui.
quand même. Merci. À Nice, on est dans le sud. Il fait pas beau en ce moment, Louis Baudin. Il y a vraiment une fracture météo dans le pays là aujourd'hui.
Non, il fait pas beau à Nice, mais on est quand même loin des intempéries qui affectent la partie occidentale du bassin méditerranéen. C'est vrai qu'à l'est du Rhône, c'est un peu plus calme qu'à l'ouest du Rhône. Donc autour du golfe du Lion, c'est là où les intempéries s'acharnent et s'acharneront encore dans les prochaines heures. Cette nuit et demain matin, et puis en cours d'après-midi, demain, ça devrait commencer à s'améliorer. Mais évidemment, pour ce qui est des risques d'inondation, il y a une forme d'inertie. Donc au contraire, on sera demain dans le pic de ces inondations, notamment dans une partie des Pyrénées-Orientales ou encore du côté de l'Aude. Des averses également attendues vers le sud-ouest, en allant vers la région bordelaise ou encore autour de Toulouse, mais là aussi moins intense. Toujours de la neige à haute altitude, donc un fort risque d'avalanche. Et puis dans toutes les autres régions, là, ce sera quand même beaucoup plus calme. Dans une large moitié nord, on a plutôt des conditions anticycloniques d'hiver, donc avec un peu de brume le matin, du soleil l'après-midi, et en revanche il fait froid, on descend parfois jusqu'à moins 4, moins 5 degrés au réveil, ça sera encore le cas demain matin, et puis l'après-midi de 4 à 6, 7 degrés dans la moitié nord, et de 7 à 12 dans le sud.
Alors, on a donc une pensée particulière pour vous qui nous écoutez dans l'Aude, merci.
Ah oui,